Je vais vous parler d'un livre de Éric de Kermel, Mon cœur contre la terre. Éric de Kermel est journaliste et éditeur de magazines de nature. Il a grandi entre l'Amérique du Sud et le Maroc. Sa relation à la nature se vit quotidiennement sur les sentiers de Provence et sur la côte bretonne. Voici l'histoire. Anna est écologue. Elle analyse l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. Alors qu'elle exerce son métier avec une exigence passionnée, elle commet un jour une erreur qui la conduit à tout remettre en cause. Elle quitte alors Paris pour rejoindre la vallée de la Clarée, où, en même temps que l'enfant qu'elle était, a grandi son amour profond pour la nature. Hébergée par son oncle Pascot, qui tient un refuge de montagne, Anna renoue avec ses amis de toujours et retrouve peu à peu le goût à la vie. Les alpages, les torrents, les lacs et les sommets, compagnons familiers du passé, ce sont les témoins muets de ses doutes d'aujourd'hui. Anna s'apaise et s'interroge, qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ? En montagne, la mort fait bien plus partie de la vie qu'en ville. Elle est dans l'esprit de chacun, quand il s'engage sur une crête effilée ou qu'il entame une descente dans une neige immaculée. Elle n'est pas obsédante, mais elle est du paysage. Au printemps, quand la neige fond, elle découvre les cadavres, parfois intacts, des animaux qui n'ont pas résisté à l'hiver. Il est même des emplacements où le chamois âgé se déplace pour y déposer son dernier souffle, comme les cimetières d'éléphants en Afrique. Lors d'une escalade, il m'est arrivé d'atteindre une large vire où trois cadavres de l'hiver gisaient. L'homme des villes ne voit pas la mort. En montagne, c'est un sujet qui est discuté, parfois même de façon polémique. Thomas disait souvent que celui qui ne risque pas sa vie ne la vit pas vraiment. Quand il s'est lancé en solo, sans assurance, à l'assaut des cerces, je voyais bien qu'il avait un besoin d'adrénaline bien supérieur aux autres. Je n'ai pourtant pas le sentiment que les alpinistes, connus ou inconnus, vivent plus que d'autres parce qu'ils côtoient le risque. L'ermite de la Scrème en plein cœur du Hogar algérien, le chercheur penché sur ses éprouvettes ou l'écolière kenyane qui marche matin et soir dans la savane durant une heure sur le trajet de son école sont des êtres tout aussi vivants. Trop nombreux sont ceux qui se frottent aux limites simplement parce qu'ils ont un seuil d'insensibilité qui leur donne le sentiment d'éprouver quelque chose uniquement au contact de l'extrême. Alors que Pascot rentrait d'une expédition au sommet de Lama Dablam au Népal, je me souviens des mots de Siloé. J'en ai marre de ces hommes qui te parlent de leurs doigts de pied gelés comme des trophées d'une bataille. J'aime beaucoup le nom de l'association de Christine Janin. À chacun son Everest. Depuis très longtemps, elle emmène en montagne des jeunes atteints de maladies graves. Pour chacun d'eux, le but est d'arriver en haut, même si le haut est celui d'une colline ou d'une crête dominée par une grande croix qui surplombe la vallée. Elle offre à chacun la possibilité d'une victoire, une victoire intime, une victoire sur lui-même, sur la maladie qui, le temps d'un exploit, ne prend pas toute la place. Aujourd'hui, mon Everest est à moi. Nulle paroi où agripper mes doigts, le courage que je dois mobiliser, c'est celui de me regarder en face, ne pas chercher d'excuses ou d'autres responsables que moi-même. Accepter de marcher sur un morceau de lune, de chercher la petite prise pour ouvrir un passage étroit, cesser de cueillir les fleurs fanées d'un chemin usé, trouver cet autre en moi-même. Mais existe-t-il encore un papillon endormi dans ma chrysalide ? Je m'assieds en tailleur sur la table des lois et sors mon pique-nique, mon repas préféré, comme je l'ai souvent dit à Paul quand il voulait se faire pardonner quelque chose en m'emmenant dans un restaurant gastronomique parisien. Au restaurant étoilé, je préfère les ciels étoilés. Qui n'a jamais mangé un morceau de fromage des chefs de François avec du pain d'Antoine, assis au bord d'un lac, ne connaît rien de la vie. À la fin de mon repas, merveilleux, je vois les chocards s'approcher et venir picorer les miettes. Dans la neige, la démarche du chocard ressemble à celle d'un manchot sur la banquise. Le bout de leurs ailes traîne dans la neige et dessine un tracé bien parallèle, comme pour guider leurs pas sur un chemin rassurant. Je reste immobile faisant l'exercice des cinq sens. J'entends le cri des chocards, plus loin celui du ruisseau et plus loin encore, la cloche de Nevache. Je sens le froid sous mes fesses, mon visage qui prend le soleil, mes genoux qui ont perdu l'habitude de rester ainsi si longtemps. Je sens l'odeur de la tourbe imbibée d'eau et qui déjà doit porter dans ses pores les crocus qui vont éclore dès que la neige aura disparu. Je goûte encore l'odeur de chèvre dans ma bouche, mais aussi les petits grains de sésame coincés entre mes dents et que je fais craquer un par un. Je vois le lac bleu avec son eau qui ne l'est pas, la forme des rochers arrondis par le manteau neigeux. Je vois le soleil de connivence avec l'eau qui fait vibrer les rochers de reflets dorés. Je vois un loup de l'autre côté du lac, au pied d'une succession de rochers. Je vois se déplacer un loup qui, lui, ne m'a pas vu. Je suis dans le vent, donc le loup reçoit le souffle de l'air avant moi. Dans le cas contraire, il aurait perçu mon odeur et ne serait jamais découvert ainsi. Je n'en reviens pas, je ne pensais pas en voir un ici, malgré leur présence qui s'est étendue progressivement depuis leur retour en France par le Mercantour. Les loups se trouvent désormais du côté du Massif central et des Cévennes, sans que personne explique comment ils ont pu traverser la vallée du Rhône et l'autoroute du Sud. Je reste immobile, le loup s'approche de l'eau et boit. Mes yeux s'embuent et je pleure de joie autant que d'émotion. Le loup m'est envoyé comme un signe, je le prends comme un rappel à l'ordre. Tu es bien à ta place, Anna, du côté de tous, ceux qui luttent pour protéger la nature, le sauvage, les grands espaces, les ruisseaux et les océans. Ce loup, c'est un cadeau. L'animal sauvage, quand il se donne à voir, me fait un cadeau. C'est vrai de la libellule qui se pose sur la mare, d'un oiseau qui passe à tire-d'aile dans les futaies, et ce loup. Assise en tailleur, le regard tourné vers le loup, j'écarte lentement les bras et les lève au ciel. À ce moment précis, le loup tourne la tête vers moi et me regarde. Chacun l'un face à l'autre avec un lac entre nous. Un lac en ciel qui nous relie pour un moment unique. Le loup incline la tête légèrement vers la gauche comme pour mieux me voir, puis très simplement se retourne et disparaît derrière les rochers. Le réveil du printemps se fait sentir chaque jour davantage. Les mélèzes se couvrent de chatons rouges et jaunes. L'arbre de ses branches des épines plus douces qu'une caresse. Un vert si tendre que l'on pourrait le croquer. Dans ses branches, le chant de la mésange boréale rivalise avec celui du roitelet ou du bec croisé. La chevêchette ponctue la nuit de son ululement et je sais que je verrai bientôt le cygne plongeur remonter de la rivière et plonger sous l'eau où il établit son nid à l'abri des rochers bien au sec. Mais celui qui signe le début des amours, c'est le grand tétras. Son toc, toc commence avant même que l'aube advienne. C'est l'esprit de la nuit qui appelle le jour, nous dit un poète russe. Il commence sa parade pour attirer sa femelle et se laisse voir à qui est prêt à prendre le temps de l'affût dans la forêt. Si j'avais été une femelle tétra, j'aurais succombé assurément. L'année dernière, j'ai eu une équipe de techniciens qui est montée de la vallée pour installer des panneaux solaires sur la cabane. Pour les accueillir, j'ai mené le troupeau ici, puis je suis redescendu à la cabane. Le soir, je suis revenu chercher le troupeau, mais c'est seulement en arrivant au parcage que j'ai remarqué qu'il me manquait deux brebis avec leurs agneaux. Je suis reparti là-haut à toute vitesse. La nuit est rapidement tombée, mais j'ai sillonné la montagne avec ma frontale. Au bout d'un moment, n'entendant aucun bêlement, je suis rentré. Tu sais, Anna, le plus beau moment de ma vie de berger, c'est le soir, quand les brebis ont pu manger toute la journée, que les derniers rayons du soleil éclaire le grand area et que je vois mon troupeau qui se repose. Alors j'ai le sentiment d'avoir bien fait mon travail. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, je me suis senti coupable. Le lendemain, dès la première lueur du jour, je me suis levé et je suis remonté vers les chaillons. À peine passé le virage du sentier, j'ai vu une trentaine de vautours tournoyant dans le ciel. J'ai tout de suite compris que j'avais payé cher mon erreur de la veille. Et Thomas a les larmes aux yeux, mais il poursuit. J'ai avancé jusqu'à l'aplomb des rapaces. Au sol, il restait les deux têtes des agneaux et leur mère éventrée, mangée de l'intérieur. Cette image me hante certaines nuits et je ne veux plus jamais revivre ça. Entre les bergers et le loup, il faut choisir.